Dans le livre de la Genèse, la semaine passée, nous avons parlé sur Isaac. On a vu Isaac et sa famille. Aujourd'hui, je voudrais considérer Isaac dans son parcours. On va considérer le chapitre 26. Le livre de la Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous en as fait ?» Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'il avait creusés, les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent, ils se levèrent de bon matin, ils se lièrent l'un et l'autre par un serment, Isaac, les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Il l'appela Sheba, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. C'est finalement le seul chapitre réellement dédié à Isaac. Dans les chapitres précédents, c'est plutôt la famille d'Isaac qui est dépeinte. Et il est question du mariage d'Isaac, il est question de cette stérilité, puis de cette grossesse compliquée, puis de la naissance des deux jumeaux, Jacob et Ésaü, et puis de l'échange du droit d'aînesse. Voilà ce qu'on a dans le chapitre précédent. Ici, il est question que d'Isaac. Et puis dans le chapitre suivant, c'est le vol de la bénédiction, où on retrouve à nouveau toute la famille, et on aura l'occasion de voir ça la semaine prochaine. Quand je lis ce chapitre, j'ai envie de l'intituler « Tel père, tel fils ». Tellement Isaac marche sur les traces d'Abraham. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup de ressemblances dans le bon et dans le moins bon. Et il y a la même tentation, le même mensonge, mais aussi la même manière de fonctionner, et puis la même alliance, la même bénédiction. Je pense que ce chapitre s'étend sur une période assez longue. Même si nous, on le lit en 5 minutes, je pense qu'il a duré plusieurs années. Et c'est pour ça que ce n'est pas un épisode, mais c'est plutôt une partie, une tranche de vie importante dans la vie d'Isaac. Et on voit finalement Isaac énormément bouger. Il descend dans le sud, il a le projet d'aller en Égypte, et puis il reste dans le sud du côté des Philistins, à Guérar. Et puis il commence à se déplacer, il rentre un peu plus dans le pays, dans la vallée de Guérar, et puis un petit peu plus loin, et finalement il va jusqu'à Beersheba. Tout ça, ça a pris un peu de temps. Isaac, c'est un éleveur, et c'est donc un nomade. Aujourd'hui, un éleveur en France, c'est un sédentaire, comme un agriculteur. Mais à cette époque, les agriculteurs sont des sédentaires et les éleveurs sont des nomades. Et les mentalités ne sont pas les mêmes. Je vous rappelle que la Bible nous encourage à voyager sur la terre comme étrangers et voyageurs. Finalement, la mentalité du nomade, elle doit nous animer. Je vous rappelle ce texte. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et rappelez-vous la suite, on a l'impression que ça correspond à notre texte. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre texte colle avec l'histoire d'Isaac. Ça fait plusieurs semaines que je médite sur ce chapitre et c'est mon plan. J'ai eu du mal à trouver mon plan. Mais je l'ai. Et je voudrais considérer ce matin les facteurs qui ont piloté Isaac dans tous ses mouvements. Et je voudrais en considérer quatre. Le premier, c'est l'obéissance à Dieu. Quand il y a eu la famine, Isaac a commencé à descendre vers l'Égypte. On voit que c'est souvent une tentation. À plusieurs reprises, on voit que les hommes de Dieu ont eu tendance à un moment donné à vouloir aller en Égypte. Et là, il va y avoir une intervention de Dieu. Dieu va lui apparaître. C'est même la première fois que Dieu apparaît à Isaac. Et Dieu lui dit, tu ne descends pas en Égypte. C'est niet, verboten, interdit. Non, enfin tout ce que vous voulez, c'est catégorique. Et il lui dit, tu restes dans le pays. Mais tu ne vas pas en Égypte. Nous comprenons que quand Dieu nous donne une interdiction, c'est pourquoi ? Ce n'est pas pour nous dire « je suis le chef et toi tu te soumets hein. ». Mais quand Dieu donne une interdiction, c'est toujours dans le but de nous protéger. La vie chrétienne, ce n'est pas tellement des panneaux bleus ou des panneaux rouges. Les panneaux bleus, c'est obligation. Les panneaux rouges, c'est interdiction. Alors, vous connaissez votre code de la route, hein ? Mais avec le Seigneur, c'est beaucoup de panneaux jaunes. Et quand Dieu nous dit stop, c'est avec plutôt un panneau jaune pour dire danger. C'est dans ce but-là. Et, Et Isaac va comprendre peut-être qu'il aurait eu envie d'argumenter. Mais Seigneur, tu sais, il y a de l'eau là-bas. Il y a le Nil et tout, il y a des oasis. Et... Non, tu n'y vas pas. Ce que je voudrais dire, c'est ceci par rapport à ce texte. Je remarque dans ce passage que Dieu dit un non catégorique et le oui n'est pas clair. Dieu lui dit, tu restes dans le pays. Mais ce n'est pas clair. Je vais revenir dessus. Mais le non, il est catégorique. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quand Jésus devient notre sauveur, la grâce remplit notre cœur. Et il y a cette conviction d'être pardonné de nos péchés. Et il y a un changement qui se produit. Et il y a des choses qui se posent vite, et notamment les noms. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, le rugby, c'était non, fini. Alors c'est l'environnement. Les sorties la nuit, c'était non. Il y a des choses, les noms se posent rapidement, et il faut les accepter. Si je commence à... on est libre. J'ai pas envie d'entendre un oui à la Balaam. Tu veux y aller? Parce que vous rappelez dans l'histoire de Balaam, Dieu dit non. Et puis quand Balaam revient à la charge, Dieu dit oui. C'est pas Dieu qui a changé d'avis. Mais quand nous on veut forcer les portes, Dieu dit tu veux y aller, vas-y. Parce qu'on n'est pas des automates. Dieu nous respecte. Mais Dieu parle clairement. Et il y a des noms. Et puis il y a un oui en même temps, mais comme je le disais, le oui n'est pas très clair. Il dit, dans le pays que je te dirai, c'est au futur, comme c'est dire, je te parlerai plus tard là-dessus. Dieu lui fait clairement comprendre qu'il y aura des précisions qui seront données plus tard. Je pense qu'Isaac, il aurait préféré avoir des coordonnées GPS, vous voyez, où je dois aller. Beersheba, c'est où? Dis-moi-le plutôt que de me laisser tourner en rond et... Mais Dieu lui dit, voilà, je te donne, tu restes dans ce pays et je te préciserai les choses plus tard. Dans les 2 mois qui ont suivi mon baptême, le Seigneur m'a parlé clairement sur la suite. Et j'ai reçu un appel à un jour après chez l'Évangile. C'était clair, j'ai été bombardé. Et puis après, plus rien. Mais je ne savais pas par où. Par quel chemin, comment, quand, rien. Je savais que c'était posé. Et il faut des fois attendre et on avance. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que j'ai remarqué qu'il y a des personnes, elles fonctionnent un petit peu à l'envers. Les noms, ils sont pas très catégoriques, vous voyez. Par contre, les oui, j'ai vu des personnes, le Seigneur en parle tous les 10 fois par jour. Et ça me pose un petit problème. Il y a des noms qui sont clairs. Et si je les refuse dans ma vie, je suis en danger. Il y a des choses, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut, ce n'est pas toujours facile de savoir où est notre place. Mais je sais où elle n'y est pas. Vous me suivez? Et ça, c'est important. Il y a des choses où je sais que ce n'est pas ma place. Et des fois, par défaut, je sais pas toujours, on ne sait pas toujours où est-ce que Dieu veut nous conduire. On tâtonne, on tourne un petit peu. Mais je sais où Dieu ne nous veut pas. Et ça, nous pouvons tous le dire. Et après, il faut savoir entendre. Le non, il est catégorique au départ. Le oui, il est un petit peu, il manque de précision. Mais il faut accepter ce chemin-là. L'obéissance, c'est quelque chose de précieux pour ne pas aller au mauvais endroit. Elle ne me fait pas toujours connaître la décision de Dieu, la direction de Dieu. J'ai besoin de quelque chose de plus. Mais au moins, ça m'évite de ne pas être dans les endroits. Alors quand je parle d'endroits, c'est... Pour nous, on ne parle pas de lieu, mais plutôt des fois d'attitude, de position, de fréquentation, d'activité. Le deuxième facteur qui a conduit, qui a piloté Isaac, c'est bien sûr le besoin de protéger sa famille et ses biens, son héritage. Quand il y a eu la famine, on comprend l'inquiétude d'Isaac. Il a un troupeau important, et s'il n'y a pas d'eau et de pâturage, c'est... En peu de jours, ça peut être la catastrophe. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de bêtes à nourrir et on comprend que l'eau, c'est un souci, une préoccupation, d'où toute cette histoire de puits qu'il creuse, etc. Et il est évident que pour lui, la préservation de ses biens, de son bétail, la protection de sa famille, c'est une préoccupation et quand il se sent en danger, il préfère se déplacer. Et il cherche en même temps une protection. Isaac avait ce souci non seulement de protéger l'héritage qu'il avait reçu de son père, mais je dirais tous les biens, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a fait fructifier. On remarque que même il a prospéré, il n'a pas fait que préserver, mais il a développé. Et on voit aussi qu'à un moment donné, il fera même un mix entre éleveur et agriculteur, même si ça ne restera pas longtemps, justement à cause de la nécessité de se déplacer. Je remarque aussi qu'il va semer et récolter le centuple. Alors quand je lis ça, moi ça me rappelle de ce grain qui est jeté, qui produit 30, 60, 100. 100, c'est le maximum. Donc vraiment, il y a eu la multiplication. J'imagine aussi que le bétail s'est multiplié. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet et je voulais voir combien de temps une brebis fait pour se reproduire. En 5 mois, une brebis peut donner naissance à 2 brebis. Donc ça fait qu'en une année, ça peut se multiplier par 6. Je l'ai entendu. Il y en a qui vont vite. Moi, bon, je regarde. Je me prenne à 2 fois pour... Admettons qu'ils avaient 1000 brebis, en un an, 6000. Alors, et en 2 ans, 36 000. J'imagine un peu les Philistins qui voient ça. On comprend que ça a suscité la jalousie. Et finalement, à un moment donné, il a cessé de se sentir en sécurité. On l'a fait partir, ça a arrangé les choses. Je voudrais faire quelques remarques ici. Ne nous trompons pas de protecteur, hein. Ce n'est pas Abimélech qui va nous protéger. Hein. David, il a fait la même erreur à un moment donné. Vous vous rappelez, quand il est poursuivi par Saül, il a un moment de défaillance et il va aller chercher refuge aussi chez le roi des Philistins, je crois qu'il s'appelle Achish, si je me rappelle bien. Il va y aller, et vous vous rappelez comment il va s'en sortir? En faisant le fou. Parce que quand il va être là, il va paniquer, il va dire « Mais où est-ce que je me suis mis ?» Et il va s'en sortir une première fois dans le four, et la deuxième fois, il sera carrément mis dehors. Abraham aussi a fait ça. Et vous savez, quand on fait des mauvais choix, on panique très vite derrière. Abraham, il a fait ce choix, et derrière, il a menti. Et Isaac, là aussi, il panique très vite, et il est en train de faire n'importe quoi. Au point, il va mentir, et au point qu'il va se prendre la leçon par Abimélec. Quand un non-croyant fait la leçon de moralité à un croyant. Ça, c'est la honte. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive un jour. Dans le cabinet comptable où j'étais, j'avais réagi. Oh, je ne sais pas comment ce que j'avais dit, mais... Ah, mais Joël, c'est pas ta manière de réagir. Je t'ai pas connu comme ça. Eh oui, des fois, alors ce n'était pas trop grave. Là, c'était quand même grave, c'était la honte. Les Philistins, ils ont quand même un niveau de moralité qui est assez élevé. On ne prend pas la femme d'un autre. Le niveau de moralité des Philistins est plus élevé que le nôtre aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous avez une alliance, mais ça n'empêche pas un collègue de bureau de vous courir après. Hein. Excusez-moi d'être direct, mais voilà la moralité. Il y avait quand même un niveau de moralité qui était là, chez les Philistins. Et... En tout cas, il a pris une belle leçon parce que, quelque part, il s'est trompé. Notons qu'Isaac, par rapport à ce que j'ai sous-entendu la semaine passée, il n'a pas dit « c'est ma sœur », mais il a dit « j'ai eu peur ». Il reconnaît sa faute. Et c'est bien d'assumer ses fautes. On n'est pas parfait. Un chrétien, il commet des erreurs, il commet des fautes. Ce qui est important, c'est de les assumer derrière. Ne nous trompons pas non plus sur ce qui est à protéger, hein. C'est bien de protéger le matériel, c'est mieux de protéger les personnes. Et on ne se trompe pas sur la protection qu'on veut à nos personnes, mais ce qu'on veut, c'est que les nôtres soient sauvés. Ce qu'on veut, c'est que leur donner les moyens de construire leur vie. Je le disais il y a récemment, mais j'aime bien des fois rappeler une vérité, que nos enfants réussissent leurs études, on est content. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient sauvés d'abord. Ce qu'on veut, c'est que les nôtres soient sauvés. C'est la priorité. Et c'est bon de se le rappeler. Ce qui est important aussi, c'est notre salut. Quand la Bible parle de la bénédiction dans l'Ancien Testament, elle a une connotation matérielle. Mais pour nous, c'est une abondance spirituelle. C'est le salut que Jésus nous a donné. Et ça, on veut non seulement le préserver, mais le faire fructifier. Parce qu'on se rappelle que le salut, ce n'est pas seulement j'ai mon billet d'entrée dans le ciel et puis j'attends que ça se passe. Mais c'est une qualité de vie dans laquelle Dieu veut me faire avancer et me faire progresser. Et nous ne nous trompons pas aussi sur la manière de se protéger. Isaac, au départ, il allait chercher un petit peu là où il y avait la pluie ou les fleuves. Et Dieu va lui dire, tu vas creuser des puits. Il a compris qu'il fallait creuser des puits. Et il est allé chercher l'eau en profondeur. Et il a même trouvé des puits d'eau vive. Une réflexion, Isaac a creusé les puits de son père et il a marché sur les traces de son père. On entend souvent dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire comme dans le passé. C'est vrai, dans une certaine mesure. On est en 2020 et on a les moyens de 2020. On ne va pas fonctionner comme en 1950 ou en 1980. On vit en son temps. Mais en même temps, il y a des puits qui ont été creusés dans le passé, que le diable a toujours essayé de reboucher, mais que nous, on va continuer de creuser. Ces puits-là, ils s'appellent la vie de prière. Ces puits-là s'appellent la réunion de prière. Ces puits-là s'appellent la prédication de l'Évangile. Ces puits-là s'appellent le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, ce sont des puits qu'on ne doit jamais permettre aux Philistins de nous les boucher. On doit toujours les entretenir et les alimenter, qui est toujours une source qui coule à ce niveau-là. Mais retenons donc ce deuxième facteur qui pilotait Isaac, c'était le souci de protéger son héritage. Et nous, on veut aussi protéger ce que Dieu nous a donné. Nous saluons-la, quand on reçoit Jésus comme sauveur, on est sauvé, mais on veut protéger et même faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Et puis il y a un troisième facteur, c'est le souci d'être en paix avec les autres. Les Égyptiens, c'était non. Les Cananéens, c'était non. Et les Philistins, c'était à la bonne distance. Isaac va être chassé par les Cananéens, car ils vont commencer à la jalouser et en même temps le craindre. Il devient plus puissant qu'eux. Alors il va s'éloigner, mais Isaac ne va pas aller très loin puisqu'il nous a dit qu'il va aller dans la vallée de Guérar. Donc, Guérar, Valle Guérar, j'imagine que c'est pas très loin. Et il va creuser des puits et on va lui faire à nouveau des histoires. Des disputes entre les bergers d'Isaac et les bergers de Guérar. Finalement, et c'est ce que j'aime bien chez Isaac, il ne fait pas d'embrouille. Il va un peu plus loin. Il laisse le puits et il va un petit peu plus loin et il creuse à nouveau un puits. Et quand il creuse à nouveau un puits, il trouve de l'eau et à nouveau, on leur fait des histoires, des disputes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va encore un petit peu plus loin. Il ne se bat pas pour dire « C'est mon puits, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai creusé. » Et j'aime bien cette mentalité-là. Ça caractérise un petit peu Isaac. Finalement, il va aller un petit peu plus loin. Et à un moment donné, il va trouver à nouveau de l'eau, creuser un puits, trouver de l'eau. Et puis là, personne ne va venir les contester. Ça veut dire que la distance est suffisamment longue. Et il va l'appeler Rehoboth. Et vous avez vu ce que ça signifie, Rehoboth ? L'Éternel nous a maintenant mis au large. Vous voyez la pensée, elle est là. C'est qu'il a mis la bonne distance avec les Philistins. Et j'aime bien cette attitude d'Isaac qui ne cherche pas de querelle, qui laisse tomber, qui s'éloigne. On est confronté à la même problématique pour nous. On ne sait pas toujours à quelle distance mettre certaines choses ou certaines personnes. Entre le monde qui nous fait la leçon, même si eux, ils n'étaient pas irréprochables. Entre le monde qui nous jalouse, le monde qui nous repousse, qui nous fait des querelles, et finalement qu'à la fin, il vient les courtiser, ils reviennent un petit peu. Parce qu'on voit qu'à la fin, Abraham va revenir pour conclure, Abimelech, pardon, va revenir pour conclure une alliance. C'est même étonnant ce changement. Je me suis posé la question, pourquoi ils l'ont mis dehors au début ? Et qu'ils viennent signer un pacte de non-agression après. Je donnerai deux explications. La première, c'est que quand il était avec eux, lui, il multipliait par 10, peut-être, et eux multipliaient que par 2, donc forcément, il y a eu de la jalousie. Et quand il est parti, eux, ils multipliaient par plus rien. Finalement, ils se sont dit, c'était peut-être mieux. Quand il était là. Et puis, parce qu'aussi, la bénédiction, ça s'observe sur le temps. C'est pas... Et c'est quelque chose, ils l'ont observé. Et ils ont vu qu'il y avait, vous savez, la grâce. Ça se voit sur quelqu'un, mais ça s'observe dans le temps. On peut être béni un jour, mais la grâce, c'est quelque chose qu'on observe, je dirais, dans la durée. Lorsque Barnabas, il est arrivé à Antioche et nous a dit qu'il a vu la grâce de Dieu. Nous, c'est cette bénédiction qu'on veut sur notre vie. Ce salut abondant, c'est cette présence de Jésus-Christ sur nos vies. Et ça, ça s'observe, mais de manière dans le temps. Hein, vous avez des fois des gens, quand on les côtoie, à un moment donné, on sent qu'il y a une bénédiction sur eux, une grâce. Et je pense qu'ils ont constaté ça. En tous les cas, je retiens cette pensée, que je reviens sur ma pensée initiale. Mais Isaac, il avait le souci d'être en paix. Ce n'est pas un faiseur d'embrouilles, ce n'est pas quelqu'un qui fait des histoires, il ne rentre pas dans les conflits. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait défendre ses droits. C'est quelqu'un qui ne va pas toujours se faire marcher sur les pieds. Ce n'est pas la serpillière de tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi des fois renoncer à certains combats. Le chrétien, c'est quelqu'un qui va choisir les bons combats et qui va en laisser d'autres. Il y a un mot qui est important en grec, c'est le mot « aphiemi ». Et c'est ce mot qui est traduit des fois par « pardonner » et de l'autre côté par « répudier ». En fait, il veut dire « laisse tomber, laissez tomber ». Et je crois que le chrétien, des fois, il va laisser tomber. Mais alors, ça m'a étonné de trouver que ce mot « laisser tomber » est traduit à la fois par « pardonner » ou par « répudier ». Je trouvais que c'était... Mais il y a la même pensée quelque part, c'est de laisser tomber. Et nous, on doit en tout cas savoir des fois laisser tomber les choses. Il y a des histoires dans lesquelles ce n'est pas les nôtres. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. On en parlait hier encore récemment avec Alexandra, mais il y a un excès du côté d'Israël chez certains chrétiens. Et quand je vois des fois des chrétiens qui se battent pour faire l'alia des juifs, je me dis, il y a un problème. Ce n'est pas notre combat. Il y a des fois, il y a des chrétiens qui tombent des fois dans des mauvais combats. Alors, il y a des combats qui sont nobles, qui sont pour nous. Mais nous, notre combat, c'est quoi? C'est justement de préserver notre salut. Notre combat, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Notre combat, c'est de communiquer la grâce. Notre combat, c'est de développer tout ce que Dieu nous a donné dans notre cœur. Ne nous trompons pas de combat. Et ayons toujours le souci d'être en paix en même temps. C'est pas facile de mettre la bonne distance avec certaines réalités. Surtout que j'ai bien les Philistins, ils n'étaient pas très clean. Hein. Ils les remettent dehors, puis après ils reviennent, ils se rapprochent, ils veulent un pacte d'agression. Si on est 50 évangéliques en France, on n'intéresse pas. Si on est 50 000, on va y aller autrement. Vous voyez, le monde n'aura pas toujours la même attitude avec nous. Mais retenons cette pensée-là. Isaac, il est conduit par le souci d'être en paix avec les autres. Le chrétien, c'est un homme de paix. C'est quelqu'un qui procure la paix. Et pour procurer la paix, il faut d'abord l'avoir dans son cœur et vivre, porter ce fruit de l'esprit qui s'appelle la paix de Dieu. Et puis, un quatrième facteur. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce passage, c'est que quand ils arrivent, ils sont mis au large, ils trouvent un puits, ils l'appellent Rehoboth. Et Isaac, il ne reste pas à Rehoboth. Regardez, c'est intéressant. Il dit, nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et au verset 23, il remonta de là à Beersheba. Et l'Éternel lui apparut dans la nuit. Il y a quelque chose qui fait bouger encore Isaac, ici. Et c'est curieux parce que là, il bouge pourquoi? Il n'y a pas de nuée qu'il dirige, à la différence dans le désert. Il est bien dans le pays que Dieu lui a donné, ou promis. La famille et le patrimoine est en sécurité. Et les Philistins sont calmés, ils ne les embêtent plus. Et pourtant, il bouge encore. Qu'est-ce qu'il fait bouger? Isaac décide d'aller à Beersheba. Alors, Beersheba, c'est un lieu qu'il connaissait. Beersheba, c'est là où il est redescendu quand il était monté sur le mont Morija. Genèse 22. Vous rappelez ce qui s'est passé dans Genèse 22? Je vais vous le rappeler. À un moment donné, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, tu vas aller sacrifier ton fils, Isaac. Et ils vont monter sur le mont Morija. On connaît cette histoire et comment Dieu va intervenir. Et en même temps, Dieu va tester Abraham. C'est toujours intéressant aussi de considérer Isaac. Isaac, il suit. À un moment donné, il va même poser une question. On a le feu. On a le bois. Mais l'agneau, il est où? Et Abraham va répondre. Dieu pourvoira. Dans cette démarche-là, Isaac nous rappelle Jésus-Christ. Dans cette soumission au Père, il y a un parallèle que l'on peut faire. Mais en tous les cas, donc, Isaac va vivre une expérience forte parce qu'il va entendre Dieu parler à Abraham. Et quand Dieu parle à Abraham, il y a une émotion chez Dieu. Dieu est même bouleversé par ce qui s'est passé. Et Isaac, il a été marqué. Même si ce n'est pas à lui que Dieu parle, il a entendu. Et ils descendent où? À Beersheba. Et finalement, Isaac, il a envie d'aller là, de retourner là. Et j'y vois un changement dans le cœur d'Isaac. Finalement, ce n'est plus la bénédiction qu'il cherche sur le plan matériel. Ce n'est plus la protection qu'il fait avancer. Ce n'est plus le souci de la paix, mais c'est la soif de Dieu. Il y a un changement qui se produit à ce niveau-là. Et finalement, on sent que chez Isaac grandit ce désir de vivre et de connaître Dieu comme son père l'avait connu. Et j'appuierai ceci par le fait que dans la nuit même où il arrive à Beersheba, Dieu parle et Dieu se révèle. C'est dans la nuit même où il arrive, il y a un désir ici dans le cœur. Notez aussi l'ordre dans lequel il va faire les choses. Comment ça se passait? Il arrivait, il posait sa tente, on creusait un puits, on trouvait de l'eau, on restait. Qu'est-ce qu'il fait là? La première chose qu'il fait, c'est qu'il construit un hôtel à Dieu. Ensuite, il pose sa tente. Et ensuite, il creuse un puits et il va trouver de l'eau. On voit que l'ordre est changé. Parce qu'il rentre dans une dimension de foi. On voit qu'il y a des choses dans le cœur d'Isaac qui ont changé. Et il y a un désir. Et je crois que c'est quelque chose qui doit aussi nous motiver dans notre cœur. Dans la soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu, ça doit être un moteur dans notre cœur. Et peut-être le plus grand moteur, encore plus que la protection, encore plus que le souci d'être en paix avec les uns et les autres. Mais la soif de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous animer dans notre cœur. Et je note que Dieu ne lui dira pas « je serai avec toi », mais il lui dit maintenant « je suis avec toi ». C'est quelque chose qui est important pour nous. Le désir de la présence de Dieu. On fonctionne des fois un petit peu comme il a fonctionné. On veut que Dieu nous dirige ou être conduit, mais pour être protégé, pour être en paix, voyez, mais qu'il y ait ce moteur-là dans notre cœur, le désir de Dieu. Et je crois que c'est, pour moi, le verset le plus important dans ce chapitre, ce sont les versets 25. Et 23, 24 et 25, ce changement-là, c'est là. Quand il a posé sa tente, il a creusé son puits, allé à Beersheba. Le désir de notre cœur, c'est finalement d'être là où Dieu se tient. Il y a un chant qui parlait de la présence de Dieu tout à l'heure. Finalement, c'est ça la bénédiction. Quand bien même j'aurai une bénédiction sur le plan matériel, mais si Dieu n'est pas là, si je ne cultive pas la présence de Dieu, ma bénédiction matérielle, elle va vite tourner au fiasco. Et on en a vu. On en a vu. Posons-nous la question sur ce qui nous fait avancer. Est-ce que c'est le souci d'être en paix, la protection, le désir de bénédiction matérielle, tout ça, c'est louable dans une certaine mesure. Mais retenons à un moment donné que la soif de la présence de Dieu est devenue le moteur principal dans le cœur d'Isaac. Retenons aussi chez Isaac son désir de marcher sur les traces de son père. Et nous, on désire marcher aussi sur les traces de ceux qui nous ont précédés. Et prendre, bien sûr, ce qui est bon, mais comme je disais, il y a des puits, ils doivent jamais se boucher dans nos vies. Hein. On change, ça évolue. Il y a des puits qui ne doivent pas se boucher. Retenons aussi ce qui caractérise Isaac. Isaac paraît des fois un peu passif quand on regarde son histoire. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est sa soumission et son obéissance à Dieu. On l'observe bien sûr dans ce parcours quand il monte sur le mont Morija avec son père, il suit. Je ne suis pas sûr qu'il était bien satisfait par la réponse de son père, mais il suit quand même. Et puis là, finalement, on voit que quand Dieu lui dit « tu ne vas pas en Égypte », il suit, il accepte. Même quand il s'entêtera, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, quand il s'entêtera dans son désir de vouloir bénir Ésaü au lieu de Jacob, quand il rend compte que Dieu est souverain et qu'il a conduit les choses autrement, il soumet, il accepte. C'est quelque chose qui caractérise, et je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors on n'a pas la même alliance qu'Isaac. Nous, on est rentrés dans la nouvelle alliance, avec un engagement de la part du Seigneur différent, mais Dieu nous a donné son salut et toutes sortes de grâces qui vont avec. Mais à nous d'aller puiser dans les puits, à nous d'être animés des bons désirs. Je termine simplement en rappelant, vous rappelez l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Question de puits, là aussi. Et Jésus lui parlera d'un puits et d'une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Notre Dieu veut nous emmener plus loin. Rappelons-nous l'obéissance, le souci d'être en paix avec les autres, le désir de protéger les siens, mais aussi la soif et le désir de la présence de Dieu. Voilà des choses qui doivent motiver, qui doivent être comme des moteurs dans notre cœur, avec une préférence bien sûr pour la dernière, vous le comprenez bien, que son nom soit béni.